L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'aime, l'émission. L'émission, le magazine, c'est un module radiophonique qui se pose dans vos oreilles à midi en direct et qui s'y rediffuse à 18h. Et le mardi, souvent, on reçoit des scientifiques de toutes disciplines, océanographie, biologie marine, forcément, géologie aussi, et puis les sciences humaines, on la part belle, histoire, droit, sciences du langage, ethnologie. Et aujourd'hui, il sera question de pédagogie, de psychologie et de santé, avec le Césime Santé. Alors le Césime Santé, c'est le centre de simulation pour l'apprentissage et l'enseignement des sciences de la santé de l'Université de Bretagne occidentale. Donc c'est un organisme de recherche et d'enseignement qui propose notamment aux stagiaires, comme son nom l'indique, des simulations de situations. Dans cette émission, il va être exactement question de cela. L'une de nos invitées, Sandrine Dauvin, est ingénieure pédagogique au Césime Santé. Elle vient nous présenter un outil dans l'air du temps, puisqu'il s'agit de numérique, un jeu sérieux, le Serious Game, zéro accident, un jeu d'enfant. Et avec elle, il y a un médecin urgentiste, Jérôme Ducrot, qui a participé au développement de cet outil. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'outil? Donc, à quoi ça ressemble concrètement? Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous. Sandrine Dauvin, allez-y.
Alors, Zéro Accident, un jeu d'enfant, est un jeu sérieux numérique en 3D destiné aux parents de jeunes enfants. L'objectif est de les accompagner dans l'apprentissage des gestes de prévention des accidents à la maison pour les enfants de moins de 5 ans en particulier.
Alors, on se promène dans une maison. C'est une maison qui n'est pas très grande, mais qui a quand même un étage, c'est important. Il y a un jardin aussi.
Effectivement, on a reconstitué un petit logement typique pour un jeune couple avec un enfant. C'est un appartement brestois qui a été modernisé, on dirait. Ouais. Hein. Donc avec effectivement toutes les pièces qu'on peut retrouver dans le logement et un petit extérieur.
C'est important, on va voir pourquoi. Et il y a trois phases, hein, c'est ça, dans le jeu. Alors la première phase, qu'est-ce qu'on fait?
La première phase du jeu s'appelle je cherche et je trouve. Le parent et se retrouve dans le logement et il va devoir le parcourir à la recherche de 19 risques d'accident de la vie courante pour son enfant. Donc il se déplace. Donc au doigt, hein, puisque le jeu est tactile s'il est téléchargé sur un smartphone ou à la souris si c'est sur ordinateur. Donc le parent se déplace dans toutes les pièces et dès qu'il est interpellé par une situation potentiellement risquée, eh bien il peut activer les changements.
C'est ça, ça apparaît en orange. Alors voilà. Donc on entend un son, je vais vous le faire entendre.
Je suis attirée par les couleurs vives et les petits objets, mais je risque de m'étouffer en les mettant dans ma bouche, dans mon nez ou mes oreilles. Boire et manger sont des moments excitants pour moi. Je m'agite, je veux attraper ce qui est à ma portée. Je peux facilement chuter. Ma curiosité me porte vers les objets et produits que les plus grands utilisent souvent, mais moi, je peux facilement m'intoxiquer avec.
C'était trois exemples de situations qu'on peut trouver.
Oui, alors voilà. Ce que vous avez entendu, effectivement, ce sont les recommandations émises dans le parcours de jeu en version enfant, en perspective enfant. C'est une option du jeu qui permet aux parents de se mettre à la place de son enfant et de voir le monde à travers ses yeux.
À hauteur d'enfant, oui, c'est vrai, tout à fait. Et la deuxième phase du jeu, donc une fois qu'on a parcouru toutes les pièces, hein, cuisine, salle de bain, enfin jardin, qui compte comme une pièce, l'entrée aussi, il y a une phase de réappropriation, de remédiation. Enfin là, c'est l'ingénieur pédagogique qui va nous expliquer peut-être.
Effectivement, dans la partie 2 qui se débloque, du coup, quand la première est terminée, je sécurise, permet de réinvestir ce que l'on a découvert dans la première partie, donc sur des... Effectivement, on réinterroge un peu le parent sur des choses qu'il a trouvées dans la première partie et pour lesquelles il a reçu l'information de prévention.
Donc partie quiz et troisième partie, enfin.
Une partie mission. Donc là, le parent est envoyé et placé dans une situation très particulière qui peut arriver à tout le monde. Et on lui demande de résoudre la problématique en pensant prévention des accidents de la vie courante pour son enfant. Donc là, c'est vraiment une mise en situation.
Et après, c'est fini. Enfin, est-ce qu'on reçoit quelque chose?
Alors,
un prix, un badge?
tout au long du jeu, on a essayé d'attribuer aux parents des récompenses, alors sous forme d'étoiles. Donc c'est le côté ludique, en fait, le plaisir de gagner quelque chose quand on a trouvé un risque et qu'on l'a corrigé, qu'on a rempli une mission. Alors, le principe, en fait, du jeu sérieux, du jeu.
Exactement. Alors, il en existe plusieurs. Hein. Il y en avait un qui avait été fait aussi par le Césime, un peu sur le même thème. Enfin, pour le grand public, c'est Domi-Sécure. Vous le connaissez peut-être?
Oui, Domi-Sécure est un jeu développé au Césime il y a quelques années sur la thématique de la prévention des chutes de la personne âgée au domicile. Donc là, c'est pareil. On a en fait réinvesti le visuel de l'appartement. Donc c'est ce que je vous ai dit, le petit appartement brestois, en fait, c'est un appartement physique qui est une possession du Césime et dans lequel se déroulent des simulations, en particulier de prise en charge préhospitalière.
Oui, parce que le Césime ne fait pas que des simulations virtuelles.
Hein, non, pas du tout. Et donc, on a numérisé cet appartement et modernisé pour le jeu Zéro Accident, un jeu d'enfant.
Alors, donc cette affaire des accidents domestiques des enfants, il y a évidemment, si on fait un jeu comme ça, c'est parce qu'il y a un enjeu derrière. Là, je vais m'adresser au médecin peut-être, au médecin urgentiste. Donc vous voyez tous les jours des enfants hein, dans votre service, c'est ça, Jérôme Ducrot?
Oui, c'est ça. Effectivement, les accidents de la vie courante sont bah, malheureusement courants. Et donc on a effectivement quotidiennement des enfants dans les services d'urgence pédiatrique ou en appel au SAMU. Et avec parfois des conséquences majeures. On a principalement deux pics en fait, effectivement de risque d'accident de la vie courante. On a un pic au niveau de la préadolescence vers 10-13 ans où est-ce que les enfants font du sport, etc. Et puis on a un pic majeur chez les 0-4 ans, donc qui est vraiment la cible du jeu et avec un nombre d'accidents qui est très 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 fréquent, avec quotidiennement dans les services d'urgence on voit des enfants qui ont chuté, des enfants malheureusement qui sont intoxiqués et puis parfois qui sont gravissimes avec des enfants qui finissent en réanimation. Donc la prévention est vraiment un axe majeur pour pouvoir diminuer ce type d'accident.
Et pour les définitions, accident de la vie courante, c'est pas seulement à la maison, hein, c'est ça
qu'on a... Pas seulement à la maison, c'est tout ce qui va pas être accident du travail et c'est des accidents non intentionnels qui peuvent se passer dans la vie courante, c'est-à-dire la majorité chez les 0-4 ans, c'est quand même 80% à l'intérieur.
Oui, c'est pour ça que le jeu se situe dans un appartement.
C'est pour ça que ça se situe, non, mais pas que. Il y a 20% en extérieur, que ce soit les accidents à l'école, les accidents de loisirs et aussi les accidents dans les jardins, et d'où ce petit jardin qui permet aussi d'accéder à la prévention à l'extérieur.
Et quand on dit 20 000, enfin moi j'avais en tête un chiffre de 20 000 morts par an, c'est quoi? C'est les accidents à la maison ou c'est ces fameux accidents de la vie courante?
C'est le nombre d'accidents global, ça, effectivement, qui peut y avoir. Après, heureusement, ça ne mène pas que non plus à des décès. Mais ça amène à des fractures, à des contusions, à des chutes, à des arrêts scolaires. Enfin, ça amène à pas mal de petites choses aussi au quotidien qu'on sous-estime aussi probablement.
Alors qu'on peut les éviter justement avec un peu de prévention, hein, c'est ça?
Exactement.
Et alors on va retourner dans la maison et avec les 0-4 ans, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qui vous paraît la priorité, vous médecin?
Alors, la priorité, c'est pour ça qu'on a axé le jeu sur quatre grandes priorités. Il y a les chutes. Alors les chutes, c'est 65% des accidents quasiment chez les 0-4 ans. C'est tous les jours, la table allongée, la chaise haute, la chute des escaliers, malheureusement. Et donc on a des petits scénarios pour ça dans le jeu, effectivement, pour essayer de voir les bons réflexes et puis de voir que c'est extrêmement rapide et c'est extrêmement soudain. Et on a la chance d'avoir des enfants qui sont curieux, dynamiques, etc. Mais quelques secondes où on relâche un peu la tension et puis ça peut être dramatique. Donc il y a les chutes principalement. Dans le reste, il y a les intoxications, les médicaments qui restent encore trop accessibles et pas encore dans l'armoire à pharmacie à clé, les produits ménagers, malheureusement, on a des gros risques avec ça.
Oui, parce qu'ils ne savent pas lire, les petits.
Ils ne savent pas lire et puis ça ressemble à des bonbons, c'est coloré, ça attire. Et puis on voit papa-maman prendre, donc pourquoi on n'essaierait pas de prendre? Donc ouais. c'est vraiment une vigilance particulière de ranger tout ça et de mettre à l'écart tout ce qui peut être dangereux. Pareil pour les produits ménagers, c'est coloré, ça sent bon, mais c'est dangereux.
Les petites piles aussi.
Les petites piles, et ça, c'est les risques de suffocation, effectivement. Les piles, les cacahuètes qui restent sur la table basse pendant l'apéritif. Et on a encore un exemple dramatique, pas plus tard qu'hier au sein du SAMU. Alors, dramatique qui se finit bien, mais qui aurait pu très, très mal se finir si heureusement, on est là aussi pour ça. Mais oui, c'est tous les jours et c'est quotidien. Et il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Oui.
Donc, chute, intoxication, suffocation. Et le quatrième point,
c'est ça. Ça va être tout ce qui va être noyade. Ah bah ouais. On a la chance d'être en Bretagne, d'avoir une côte magnifique. Mais malheureusement, y a de l'eau. Et quand il y a de l'eau, il y a des risques de noyade chez les enfants. Alors là, à la mer, mais pas qu'à la mer non plus, dans les baignoires. Quelques secondes d'inattention et ça peut se finir aussi de façon catastrophique. Et donc tous ces petits scénarios, notamment de mise en situation qui se passent dans le troisième, c'est un peu mon côté préféré, mais pas que, de ce jeu. Alors déjà, c'est parce qu'il faut qu'on fasse tout le reste avant, mais en plus, parce que ça mélange tous les petits réflexes qu'on peut avoir. Et la baignoire, la piscine, effectivement, c'est aussi des risques de noyade chez l'enfant et qui ne sont pas anodins. Qui sont vraiment pas dedans. On a un tiers des enfants qui peuvent être victimes de noyade à moins de 6 ans.
Ouais, et donc si le Cesim a voulu faire ce jeu, enfin concevoir ce jeu, c'est parce que on se dit comme ça a priori, mais c'est du bon sens. Enfin, on devrait y penser tout seul, mais en fait c'est pas le cas, j'imagine, Sandrine Dovin.
Oui, effectivement, depuis de nombreuses années, les accidents de la vie courante constituent, comme l'a dit M. Ducrot, un nombre important de victimes chez les enfants de moins de 5 ans. Ces chiffres ne baissent pas beaucoup, et voire sur certains risques sont en augmentation. Je reviens d'ailleurs sur les médicaments, des nouvelles habitudes de vie des jeunes couples, notamment l'usage de stupéfiants. Mettre leur enfant en situation de risque et de danger, par un certain nombre d'enfants se retrouvent aux urgences pour avoir avalé des boulettes de cannabis. Et ça, c'est un risque émergent et en augmentation.
Oui, mais là, j'ai peur que le jeu sérieux ne soit pas forcément. Enfin, il y a peut-être un problème plus social, plus global aussi.
Oui, oui. Ouais. Malgré tout, des personnes qui ont ce genre de pratique ne sont pas dispensées de mettre ces substances hors de la portée de leurs enfants. Et c'est ce qu'on a. On l'indique d'ailleurs dans le jeu, dans la chambre.
Oui, c'est ça. Oui, parce qu'une chambre n'est pas du tout un lieu sûr, quoi. Enfin, quels sont les dangers de la chambre, Jérôme Ducrot, à part les boulettes de cannabis qui traînent.
Oui, bah effectivement, c'est pas un lieu sûr. Les parents, il n'y a pas un seul parent qui veut mal faire et tout le monde cherche à optimiser les choses pour leurs enfants. Et typiquement, le fait d'être dans la table de chevet, les médicaments et autres choses, les gens pensent qu'on est en sécurité là-dessus. Et l'enfant, il a envie de découvrir ce qui se passe derrière.
Parce ils ouvrent les tiroirs, les enfants.
Ils ouvrent les tiroirs et puis ils trouvent ce qu'il y a dedans. Et donc, effectivement, pour les parents, c'est rangé. Et donc, c'est pas accessible à l'enfant, sauf que rapidement, il était du stade où il ouvrait pas les tiroirs et il arrive à les ouvrir du jour au lendemain et puis il se passe la catastrophe. Donc, ça, c'est un des premiers dangers. Après, il y a la hauteur du lit. Effectivement, un enfant qui reste sur le lit pour le changer ou autre, et puis on a besoin d'aller chercher un habit qu'on a oublié ou ça sonne à la porte. Il faut prendre son enfant et pas le laisser, parce que même si on a l'impression qu'il est en sécurité, il est entouré de couettes, etc., et que normalement ça va aller, mais se retourner, ça prend quelques secondes et puis il va faire deux allers-retours et on va le retrouver par terre. Ça, ou le lit à barreaux qui est parfois aussi dans les...
Oui, on croit que c'est vraiment sûr, un lit à barreaux.
C'est sûr, un lit à barreaux, et c'est important pour les enfants d'être sécurisés tout petits, mais dès qu'ils commencent à être un tout petit peu plus grands, capables de se lever et d'escalader, ils vont chercher à escalader, parce que il faut s'échapper de tout ça, et puis on a envie d'aller voir papa, maman qui sont un peu plus loin. Alors c'est bien, on les a sécurisés dans ce contexte-là, mais il faut penser à tous les stades d'évolution, et rapidement on peut être surpris de leur capacité à être imaginatif là-dessus, donc accentuer sur les vigilances dessus, et puis jouer, parce que c'est le but du jeu, c'est de jouer à trouver, de trouver des solutions qui paraissent parfois simples, mais finalement on n'y pense pas du premier abord, ou en tout cas on a pensé que c'était sécurisé, et c'est à ça que sert le jeu. Oui.
Mm-hmm. Et Alors, il y a aussi les avancées de la science, entre guillemets. Enfin, je pensais au, justement au lit à barreaux, j'y revenais, mais pendant longtemps, quand même, on a pensé qu'il fallait bien couvrir les enfants. Et puis, il y avait bon, la question de la position, mais là, c'est pas exactement dans le sujet. Mais c'est, là-dessus, on a aussi évolué sur les conditions dans lesquelles un enfant doit dormir pour être vraiment en sécurité.
Ah oui, pour que l'enfant soit en sécurité, effectivement, le fait de le coucher sur le dos, maintenant ça fait même plus débat, il faut coucher les enfants sur le dos parce que sinon effectivement, on a des accidents, et ça c'est prouvé, c'est scientifiquement validé, et ça depuis plusieurs années. Mais effectivement, la science a évolué là-dessus au fur et à mesure, et à chaque fois il y a des nouveautés. Il y a une vigilance permanente des autorités aussi sur les jouets, sur les différents dispositifs de puériculture pour améliorer les choses au fur et à mesure. S'il se passe quelque chose, on améliore à chaque fois, et c'est important.
Donc pas de couverture, pas d'oreiller, enfin la turbulette quoi.
La turbulette, effectivement,
pas de peluche, ça c'est dur.
Pas de peluche, pas de tour de lit, et puis on aura tout le temps de pouvoir faire ça avec les enfants progressivement, mais pas tout petit et pas attention parce que ça fait surtout plaisir aux parents, mais beaucoup moins aux enfants, ils sont tout petits.
Ouais, ils s'en fichent en fait. Ouais.
On peut jouer avec eux, avec les peluches à côté, mais quand ils dorment, on sécurise l'environnement, oui.
Alors comment vous avez conçu le jeu? Alors vous l'avez dit, Sandrine Devin, il y a le cadre qui est donc un appartement qui existe. Et sinon, sur quelles données vous avez travaillé, y compris psychologique?
Alors nous avons travaillé dans le cadre de deux comités, un comité de pilotage pour cadrer le projet et un comité scientifique composé d'experts métiers dont Jérôme faisait partie. Donc ce comité scientifique était composé de moi-même, l'ingénieur pédagogique, un médecin urgentiste, deux sages-femmes du CHU de Brest, une infirmière de néonatalogie du CHU de Brest également, des experts en développement graphique et numérique que sont l'entreprise Virtualis basée à Brest. Donc c'est vraiment une création max, enfin 70% locale, on dira. Ouais. Nous avions également des experts
c'est juste game et pédagogie.
Ouais, en pédagogie, voilà. Quoi. C'est ça. Ouais. Oui, parce qu'il y a des mécaniques de jeu qui fonctionnent plus ou moins bien, c'est ça. Il y a une ergonomie du jeu, sans doute, qu'il faut travailler.
Oui, alors ça, c'est Virtualis qui avait cette expertise. Par contre, nous avons bénéficié de la collaboration de Monsieur Courbet, Madame Blanc, qui ont travaillé sur un rapport remis à la Direction générale de la santé en 2020. Qui s'appelle Prévention des accidents de la vie courante en France, proposition pour une politique de communication de santé publique fondée sur des recherches scientifiques internationales. Ils ont fait une compilation de toutes les recherches sur la prévention en santé publique, et il en est ressorti un certain nombre de recommandations, et parmi celles-ci, l'usage du jeu sérieux est émergente. Parce que c'est un support qui porte bien ses fruits en termes de changement de comportement chez les usagers.
Et pourquoi, on le sait ?
Parce que quand on joue, on ressent des émotions. Et quand on ressent des émotions, on mémorise beaucoup mieux.
On découvre qu'on n'est pas forcément réellement différent des enfants. On apprend bien en jouant, on apprend bien en testant, on apprend bien en utilisant avec l'expérience. Donc c'est un levier supplémentaire pour développer ce jeu dans ce contexte-là. Oui.
Et pour toucher peut-être d'autres publics éventuellement
Il est vrai que les jeunes générations sont habituées à jouer au jeu numérique. Vu qu'on s'adresse en particulier aux jeunes parents, ça semblait tout à fait approprié.
Et d'ailleurs, vous l'avez testé. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour le tester ?
Alors, le jeu sérieux a été testé au CHU de Brest, au pôle femmes-mères-enfants, en fin d'année 2023, en septembre-octobre 2023.
Et c'est quoi comme pôle ? Enfin, c'est un pôle pour des gens hospitalisés, c'est ça ?
Alors, c'est le pôle où se trouve la maternité, les consultations d'obstétrique, les urgences pédiatriques, la chirurgie pédiatrique. Donc voilà, c'est là où on retrouve les enfants en soins à l'hôpital.
Les enfants, les parents, tout ce qui va être et préparation à l'accouchement, etc. Mm-hmm. Donc il y a vraiment la cible en fait de la population qui va expérimenter le jeu et qui peut en tirer bénéfice.
Mais je note quand même que ça s'appelle pôle mère-enfant. Ça veut dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il n'y a pas de pères qui viennent.
Et dans l'expérimentation, nous avons interrogé des papas, bien sûr. Donc concrètement, on s'est rendu dans les services de ce pôle et nous avons recruté des parents volontaires, des primipares, alors des parents d'un premier enfant ou premier enfant à venir, pour tester le jeu. Donc nous avons 59 parents qui se sont portés au jeu, qui l'ont testé et qui nous ont fait des remontées sur leur expérimentation de l'outil. Est-ce que c'était pratique? Est-ce que c'était amusant? Est-ce que les messages étaient clairs? Est-ce qu'ils estimaient que les recommandations leur semblaient faciles à mettre en place chez eux, etc. Et donc sur ces parents qui ont été interrogés, certains aussi ont fait des retours critiques.
Qu'est-ce qu'il y avait par exemple? Qu'est-ce qui manquait ou qui n'était pas clair ou...
Par exemple, la plus grosse remontée que l'on a eue a concerné la perspective enfant. Quand ils ont joué, ils ne se sont pas aperçus en fait qu'il y avait une option qui permettait de jouer, de faire le parcours en perspective enfant. Donc ce qui nous a amené, avant la diffusion du jeu, à retravailler le visuel de cette option pour pouvoir maximiser son utilisation.
Mais c'était utile de proposer les deux visions? Est-ce que ça aurait été pas plus simple finalement de proposer que tout de suite la perspective enfant?
En fait, on avait l'objectif est double. La première, c'est que ça s'adresse aux parents et pas aux enfants. Donc c'est qu'ils arrivent à identifier chez eux directement ce qu'eux peuvent voir au premier abord. Donc en étant ludiques, en jouant, ils sont dans leur maison, ils sont chez eux, et qu'est-ce qu'on voit au premier abord? Et puis en plus, secondairement, le deuxième objectif, c'était de pouvoir rejouer et de se mettre à la place de son enfant en se disant qu'est-ce qu'il peut voir par rapport à sa vision, par rapport à sa taille, et comment lui va identifier les choses. Et donc, est-ce que je peux pas voir moi aussi différemment certains sujets? Et c'est pour ça qu'on proposait ces deux choses. Donc la première est vraiment identifiée pour les parents et leur vision propre de la chose et pouvoir être proactif sur ce côté-là. Mais la deuxième permet de renforcer certains comportements et surtout de se dire, ah oui, celui-là qui me paraissait peut-être un peu, tout petit peu moins important, quand je le regarde de la vision de l'enfant, là ça devient quelque chose qui est une évidence pour moi, c'est dangereux pour lui.
Et sur le contenu, est-ce que les gens ont plutôt appris des choses quand même ou...
Oui. Alors le jeu a deux visées. Le renfort de pré-acquis sur les gestes de prévention de la vie courante et l'acquisition de nouvelles compétences ou connaissances. Et effectivement, les parents ont reconnu avoir appris, découvert des risques qu'ils n'avaient pas anticipés. Je pense particulièrement aux plantes, par exemple, les plantes intérieures ou extérieures.
Ah oui, du jardin. Ouais, c'est vrai, on ne sait pas. En fait, on met n'importe quoi dans son jardin. En fait, on met du poison, c'est terrible.
Effectivement, c'est simplement de la méconnaissance. Hein. À l'achat, il est judicieux de se renseigner sur la toxicité des plantes que l'on veut mettre à l'intérieur ou même planter. Parce que les couleurs, hein, comme l'a dit Jérôme, les formes, ça attire les enfants.
Un petit spoil, les petites billes à l'intérieur des pots, de temps en temps, ça peut être effectivement un vrai risque, les petites billes. Bon, j'ai rien dit, hein, surtout rechercher quand même dans le jeu.
En fait, dans le jeu, justement, est-ce que vous avez réussi à mettre... Vous n'avez pas pu mettre tous les dangers dans le jeu, vous étiez obligé quand même de sélectionner.
On a sélectionné les dangers, alors à la fois par la fréquence et la gravité. On a dû sélectionner, on ne peut pas tout mettre effectivement, parce qu'il fallait aussi que la durée de jeu soit compatible avec quelque chose qui reste ludique et agréable. Donc effectivement, il y a l'électrisation qu'on a choisi forcément mettre, parce que ce n'est pas forcément le plus courant, mais c'est aussi un danger qu'on a eu certaines remontées de temps en temps, et c'est quelque chose qu'il faut continuer à penser. Mais ça peut être l'objet d'autres choses aussi. Mais on les a pris par ordre de gravité, la chute, on insiste, parce que c'est vraiment majeur et ça c'est un des dangers à enlever, et puis les intoxications, les suffocations, c'est ça par contre c'est gravissime, tout comme les noyades, et comme on est en plus en Bretagne, les noyades on fait partie malheureusement des quatre régions où on a le plus grand taux de noyades chez les enfants et chez les adultes aussi d'ailleurs, ne serait-ce que parce qu'on a les plages à côté. Ouais. Et donc
il faut savoir nager, mais bon, pas à 4 ans quoi.
Entre 0 et 4 ans on n'y arrive pas encore, mais
Alors là, il nous reste une minute et demie en gros pour parler du déploiement de ce jeu. Qu'est-ce que... Il est terminé, enfin oui.
Oui, le jeu est mis à disposition du public depuis le mois d'avril. Donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement.
Mais on mettra tout ça sur le site de la radio,
bien sûr. De façon libre. Et gratuite,
oui,
c'est vraiment très important de le remarquer. Il peut être joué aussi sur son navigateur, donc via un ordinateur, et par le biais de l'application 1000 premiers jours, qui elle est déployée par le ministère de la Santé. Et donc un accès est prévu pour le jeu via cette application.
Il est unique ce jeu ou il y en a d'autres équivalents en France ?
Il est unique.
Nous vous félicitons.
Merci.
Et en fait, vous allez vous recueillez éventuellement encore des retours des usagers lambda ?
Alors oui, les usagers du jeu ont la possibilité de donner leur avis via un simple bouton. Hein. Et donc, on aura une extraction régulière des remontées, ne serait-ce que pour voir si ça leur plaît, et aussi tenir compte d'éventuelles remarques à intégrer dans une version future.
Et vous pourrez éventuellement passer par les crèches pour le répandre, non ? Les crèches ou les structures petite enfance
Alors tout à fait, on est en train, on mène une campagne de communication assez large. On a dit que c'était un jeu destiné aux jeunes parents, mais pas que. Il peut très, très utilement être utilisé par les sages-femmes qui accompagnent les jeunes parents dans le parcours de parentalité. Il peut également être utilisé en PMI, par les structures qui forment les jeunes au babysitting. Enfin, voilà, vraiment...
Il a été testé dans les instituts de formation aux auxiliaires de périculture aussi,
oui,
pour voir un peu leur retour et probablement que c'est aussi un créneau.
Eh bien, merci beaucoup. On invite tout le monde à se rendre sur le site de la radio pour avoir les liens, justement. Et n'hésitez pas aussi à réécouter cette émission. Merci.
Merci.
Merci.